Retrouvez une programmation musicale originale et éclectique en écoutant Upshot Web Radio.
Nous sommes de retour avec vous et aujourd'hui nous recevons Guillaume Riffaud qui nous parle du petit Ramdam des Tiers-Lieux, une journée d'échange et de rencontres qui va avoir lieu jeudi 5 prochain au Tiers-Lieux La Coho à Pontonx. Bonjour Guillaume.
Salut Louis.
Alors toi tu es membre de la coopérative des Tiers-Lieux en Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Alors pour ceux qui ne seraient pas initiés à ce jargon, est-ce que tu pourrais nous redonner une définition rapide de ce que c'est qu'un Tiers-Lieu ?
Un tiers-lieu, le point de départ, c'est le troisième lieu, c'est-à-dire sont d'abord et avant tout des lieux de sociabilité. C'est ni la maison ni le travail, c'est l'endroit où on se retrouve, pas dans le cercle privé de la maison, ni dans le cercle, qui est aussi un cercle privé, mais du travail. C'est l'endroit, c'est la place du village, c'est le resto, c'est le bar, c'est tout ce qu'on veut. C'est ces troisièmes lieux où on découvre qui sont les autres, etc. Et plus particulièrement, puisqu'on parle de... C'est aussi un tiers, pas au sens seulement du troisième, mais un tiers au sens d'un médiateur, de la tierce personne, de l'espace de médiation par excellence entre des individus isolés, seuls, je peux pas faire grand chose. Par exemple, dans le cadre de mon entreprise, si je suis tout seul, si j'ai pas un syndicat, si je suis tout seul, je peux pas faire grand chose. Mais si je suis avec les autres, on crée un tiers, un syndicat qui me permet entre moi isolé et la puissance de mon patron de me faire entendre. Dans la démocratie, c'est le parti qui est un tiers, qui est un corps intermédiaire par lequel je peux me faire entendre dans la démocratie, parce que seul, mon pouvoir d'agir, il est limité. Avec d'autres, en collectif, il est plus fort. Et donc, les tiers-lieux sont des espaces qui ont vocation à être des espaces de médiation pour que les gens viennent trouver des ressources, rencontrer d'autres pour se saisir de leur pouvoir d'agir et pouvoir intervenir sur leur territoire. Alors concrètement, ça c'est la notion un peu conceptuelle, c'est de dire si je suis isolé dans mon travail, dans mes activités, où est-ce que je peux me fédérer avec d'autres pour me former, pour découvrir, pour entreprendre avec d'autres, porter plus loin mes activités. Donc son tiers-lieu, énormément de choses. Ce terme, il est utilisé depuis très longtemps, notamment par le monde des bibliothèques, qui sont des tiers, des tiers-lieux à part entière. On parle.
Ah d'accord, ça je savais pas.
Les bibliothèques, on utilise ce mot-là dans le monde des bibliothèques depuis une vingtaine d'années. Et la question, c'est donc du coup derrière cette notion de tiers-lieu, de troisième lieu, quel est le projet social qui est porté? Donc il y a des tiers-lieux qui ont des postures très différentes. Il se trouve qu'effectivement, je suis sociétaire d'une société coopérative qui s'appelle la coopérative Tiers-lieux, qui rayonne, on va dire, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, pas seulement, mais beaucoup. Et ces tiers-lieux, au sein de la coopérative, portent tous, d'une manière plus ou moins affirmée, mais clairement, un projet social. Et c'est vrai, le point de départ de beaucoup de tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine, c'est ce qu'on appelle le coworking ou l'espace de travail partagé. Donc, de premier abord, comme ça, on se dit, c'est un peu plat, c'est juste des gens qui viennent mettre des bureaux en partage. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a fait un sondage récemment sur les 206 tiers-lieux, sur une 206 tiers-lieux qui ont répondu à notre sondage, plus exactement. Et sur ces 206 tiers-lieux, pourtant on a vérifié, on a recoupé les données et tout. En 2018, il y a 146 000 personnes qui ont eu accès à une activité artistique ou culturelle. Donc partant de ces espaces de travail, on est devenu des acteurs de la vie culturelle en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça veut dire, qu'est-ce qui se passe pour que des gens qui au début... viennent simplement pour leur intérêt particulier, trouver un espace de travail et pouvoir se développer, connaître les gens avec qui ils sont, etc. De là, qu'est-ce qui fait qu'ils se mettent à travailler au service de l'intérêt général, à produire autre chose, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce lieu de rencontre? C'est un tiers-lieu.
D'accord. Ouais, donc une structure un peu hybride qui amène les gens à se rencontrer, tu l'as dit, soit par le travail, soit par le loisir, la culture aussi.
Ouais, c'est vraiment avoir une vision en tout cas large de la notion de travail, d'activité, parce que en France, on a tendance à tout voir à l'aune du PIB quand on parle de travail, mais en fait, quand un grand-père accompagne sa petite-fille à l'école, il produit au moins autant de valeur que quand c'est une nounou qui le fait. Et pourtant, dans un cas, c'est compté, dans l'autre cas, c'est pas compté. Donc nous, on essaie d'avoir une vision large du travail, ou plus exactement de l'activité, c'est-à-dire que c'est des lieux d'activité, c'est des lieux où on produit une valeur, mais c'est pas forcément une valeur au sens économique, ou en tout cas qui ne se traduit pas de manière économique dans le comptage qui est celui du PIB. Voilà.
D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les objectifs, éventuellement les actions qui sont menées par la coopérative des Tiers-Lieux, et donc ton rôle aussi au sein de cette coopérative?
Alors le but de la coopérative à l'échelle régionale, c'est de favoriser le développement d'un réseau de tiers-lieux, Mais pas seulement de tiers-lieux, le but c'est pas de travailler qu'entre tiers-lieux, le but c'est de travailler aussi avec des coopératives d'activité d'emploi, avec des syndicats, avec des entreprises, avec des acteurs associatifs, des centres sociaux, des MJC, etc. Et le but c'est de dire comment on a une meilleure connaissance les uns et les autres de nos problématiques et comment ensemble on peut mutualiser, faire en sorte de dépasser un peu certains problèmes pour aller plus loin dans l'application de notre projet social. Un projet social, en l'occurrence, qui est construit par les gens du tiers-lieu. Le tiers-lieu, il est fait par les membres du tiers-lieu. Il n'est pas décidé d'ailleurs. C'est le point de départ du tiers-lieu, c'est que c'est un espace où les gens coopèrent et décident d'eux-mêmes. Donc il y a une activité de réseau, il y a une activité entre guillemets d'école. Là, le but, c'est d'aider tous les tiers-lieux qui portent des projets de formation professionnelle de s'associer ensemble pour mutualiser un certain nombre de choses et pouvoir développer des formations dans leur lieu, parce que si on est dans cette logique de tiers, de médiation, il faut porter de la formation professionnelle, mais pas que. Et puis il y a une troisième dimension qui est une dimension labo sur laquelle moi je bosse un peu plus, et là l'idée c'est de faire d'accompagner, d'expérimenter dans tout lieu en Nouvelle-Aquitaine avec l'existant et aussi dans des créations de tiers-lieux pour réfléchir à comment ce concept peut permettre le développement de territoires qui aujourd'hui peuvent être en difficulté du fait de la disparition de certains services publics ou de services tout court. Parfois, c'est la boulangerie, le bar qui ferme. Et, voilà. Et notamment, par exemple, on renvoie très souvent les tiers-lieux à la question du numérique. Or, vraiment, le numérique n'est pas constitutif des tiers-lieux. Le numérique est une réalité sociale et sociétale qui s'applique partout malgré nous. Et on constate que dans beaucoup de lieux, on a remplacé les humains, à savoir les fonctionnaires, par des ordinateurs. Et donc les tiers-lieux se retrouvent, mais pas seulement les tiers-lieux, plein d'autres acteurs associatifs et culturels, etc., mais se retrouvent à faire un travail de médiation pour permettre aux gens d'avoir accès à leurs droits. Et donc du coup, on est renvoyé à cette réalité numérique parce qu'on le fait, parce qu'il faut bien le faire, mais c'est pas un choix, parce que la culture numérique, et on le sait bien, sous l'angle par exemple de l'environnement, etc., ça pose quand même énormément de problèmes. Donc il s'agit pas de dire « youpi, les tiers-lieux c'est numérique », non. Les tiers-lieux, c'est des collectifs autogérés qui se posent la question des problèmes des gens en milieu rural, dont le numérique.
Ouais, parce que je l'ai pas précisé, mais tu es cofondateur aussi donc du collectif La Smala, qui est aujourd'hui un tiers-lieu numérique, on peut dire.
Alors qu'un tiers-lieu où il y a de la médiation numérique, ouais.
Il y a de la médiation numérique. En tout cas, c'est une question qui est quand même très très présente.
Et voilà. Et donc
du projet.
Et du coup, dans notre labo,
c'est ça qui t'a questionné peut-être aussi.
Au départ, la question c'était, enfin ça remonte à longtemps. On travaillait notamment avec une chaîne Arte. Bon bref, sur quel monde on a envie de construire. C'est quoi le monde qu'on imagine en 2040. Alors évidemment, personne ne sait ce que ça sera vraiment.
Je veux dire, savoir. Est-ce qu'il y aura encore un monde en 2040.
Non, mais prévoir précisément à quoi ressemblera le monde en 2040, c'est forcément la science-fiction. Mais en l'occurrence, par contre, on peut savoir deux choses. On peut connaître la réalité de maintenant. Alors dans le domaine écologique, on voit toutes les catastrophes qui s'annoncent, mais on les voit très concrètement. Et puis dans le domaine social, on peut voir aussi ce qui nous habite en termes d'imaginaire négatif ou positif, quoi. Et donc l'idée, c'était de réfléchir, et c'est comme ça que nous est venue l'idée de créer un tiers-lieu, c'est de réfléchir à, mais en fait, ce monde, il dépend aussi de ce qu'on va en faire. Et si on veut intervenir seul, on n'y arrivera pas. Et si on attend tout de la puissance publique, on n'y arrivera pas. Il faut que nous, en tant que citoyens, en tant que pauvres, riches, grands, petits... cheveux longs, cheveux courts, chômeurs, RSA, grosse bagnole, peu importe, tout le monde est le bienvenu. Il faut qu'on se mette ensemble et à un moment de se dire, s'il y a marqué liberté, égalité, fraternité sur tout le fronton de nos mairies et de nos églises, bon, liberté, égalité, on voit, fraternité, c'est à nous de le gérer, quoi. C'est un sujet, on oublie vachement souvent ça, quoi, je trouve. Comment dans un village comme Saint-Julien-en-Born, comme n'importe quel village, comment on considère qu'on est frère et qu'on n'est pas là juste pour être en petite communauté par petit groupe d'affinités, mais on considère que la fratrie, la fraternité, la sororité, l'adelphité au neutre, comment on considère que c'est accepter l'autre tel qu'il est, qu'on ne l'a pas choisi, parce qu'une famille, c'est qu'on ne s'est pas choisi, et on doit s'aimer même si on ne s'est pas choisi, et de voir la vie dans nos villages un peu comme ça, c'est d'accepter qu'on ne s'est pas choisi, qu'on ne fait pas des petits groupes, des petites communautés où on se renferme entre nous, mais au contraire, comment on est des tiers les uns pour les autres, comment on s'aide, comment on partage nos compétences, au-delà de nos affinités, au-delà de nos groupes, on peut avoir des groupes affinitaires, on peut avoir des sensibilités politiques communes, etc. On peut constituer des groupes et des communautés, et c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais l'idée que nous, on portait du tiers-lieu et que l'idée qu'on porte à la coopérative des tiers-lieux, c'est que c'est intéressant et c'est même essentiel qu'on apprenne à bâtir, à construire, même avec ceux qui ne pensent pas pareil que nous, dans cette logique de fraternité.
De trouver des communs, finalement. Entre...
Exactement. Et c'est de construire des communs, même avec ceux qui ne sont pas comme nous. Le meilleur exemple de tiers-lieu que je puisse donner, c'est celui de la place du village de Saint-Julien-en-Borne qui nous a inspirés, parce qu'il y avait des choses extraordinaires à Saint-Julien avant qu'on arrive, évidemment. Et la place du village de Saint-Julien, il y a tout un tas de gens qui viennent chaque semaine pour consommer, donc c'est leur intérêt particulier, pour vendre, c'est tous les marchands, c'est bien des intérêts particuliers, et ils sont développés, favorisés, ces intérêts particuliers, on trouve plein de choses, les commerçants sont les artisans, tout le monde y gagne, voilà. L'intérêt général, on est sur la place du village, il y a une vraie vie de village, tout le monde s'y retrouve, il y a un vrai intérêt général, et l'intérêt collectif, puisque chaque semaine, il y a une association qui vient proposer un repas à 3,50, ce qui permet à la fois de favoriser l'intérêt général parce que ça crée de la convivialité, l'intérêt particulier parce que ça permet même aux plus fragiles de manger pour pas cher, et l'intérêt collectif parce que chaque association qui vient se renforce en termes de visibilité et aussi financièrement en vendant ces trucs. Donc on peut combiner les intérêts particuliers, l'intérêt collectif et l'intérêt général. Et la place de ce marché, c'est ce commun, c'est ce tiers-lieu, c'est ce troisième espace qui n'est pas la maison, qui n'est pas le bureau, dans lequel tous ces intérêts viennent se rencontrer et s'équilibrent. Et il n'y a pas les intérêts particuliers qui prennent le dessus sur l'intérêt collectif, il n'y a pas l'intérêt collectif qui prend le dessus sur l'intérêt général. Donc on n'est ni dans l'individualisme pur, ni dans le collègue, ni dans le communautarisme, une petite communauté qui tirerait à la couverture à elle, ni dans une vision d'intérêt général qui s'imposerait à tous de manière totalitaire. On est dans une combinaison des trois, qui laisse la marge et la liberté à chacun, et en même temps qui respecte et le plus fragile, et celui qui veut innover, inventer, développer des nouvelles choses. Alors ça peut paraître un peu utopique, mais ça marche très bien, il n'y a pas beaucoup de sous nécessaires. Il y a énormément de gens de partout, quelles que soient leurs conditions, qui trouvent là un élément de réconfort, de développement personnel, etc. Il y a plein d'associations qui se développent grâce à ça, et clairement on vit bien et mieux à Saint-Julien-en-Borne, et l'intérêt général est pleinement préservé. Donc le tiers-lieu, c'est de trouver cette combinaison... gagnante, j'aime pas trop, je suis désolé, mais entre les différents intérêts, c'est pas nier les uns et les autres, mais c'est de trouver cette combinaison, ce lieu commun, et c'est commun qu'on produit. Le commun, c'est le concept de marché, par exemple, c'est notre commun. Il nous appartient à tous. Il appartient pas à l'un ou à l'autre. Il a pas été décrété par l'un ou par l'autre. Il n'est pas dominé par l'un ou par l'autre. C'est pas la mairie de Saint-Julien qui domine cette place, c'est pas l'intérêt des assos qui domine cette place, c'est pas les intérêts particuliers qui dominent cette place. C'est vraiment un commun qui est ouvert à tous.
Et justement, puisque tu parlais des pouvoirs publics tout à l'heure, donc c'est quand même eux qui vont faciliter la mise en œuvre de ces structures, de ces tiers-lieux. Même si derrière, bon, bien sûr, l'action, le développement va passer par l'investissement citoyen avant tout. Donc comment c'est perçu ça quand on travaille dans ces tiers-lieux, dans ces coopératives? La relation entre l'intérêt citoyen et la pression des pouvoirs publics, les contraintes éventuellement qui vont être amenées par les pouvoirs publics.
Alors, en Nouvelle-Aquitaine, on a la chance d'avoir été soutenu très fortement, notamment financièrement, par la région. Donc, on peut pas nier ça, et c'est clairement, ça a favorisé le développement de beaucoup de tiers-lieux. Et là, ce mal-là, comme tu le disais tout à l'heure, à laquelle j'ai participé, a clairement été soutenue par la région et fortement, donc je ne peux pas cracher dans la soupe. En même temps, il y a plein d'autres régions et plein d'autres endroits en France où il y a plein de tiers-lieux, et des tiers-lieux qui marchent très fort, et qui ne sont pas des tiers-lieux qui ont été cofinancés ou soutenus financièrement. Donc, tiers-lieux n'égale pas soutien de financement et financement public. Alors, dans le cas où ça arrive... La question à se poser, c'est est-ce que le financeur accepte que l'idée même du tiers-lieu implique une gouvernance et une gouvernance partagée et une vraie démocratie, dans laquelle chacun, dans une logique un peu coopérative, a une voix, et donc le financeur a une voix comme les autres. Si le financeur accepte ça, c'est bien parti. Si le financeur accepte pas ça, forcément... La question, c'est... Moi, c'est une image qu'on m'a donnée cette semaine, alors c'est pas de moi. Celui qui donne, il a souvent la main au-dessus de celui qui reçoit. Et donc, c'était à la Croix-Rouge, quelqu'un qui faisait de la distribution alimentaire qui me disait ça. Et donc, il me disait, pour lui, c'est vachement... ça peut pas durer. Il faut que le bénéficiaire et le bénévole aient la main à la même hauteur. que le bénévole n'ait pas un pouvoir sur le bénéficiaire et que même le bénévole se reconnaisse lui-même comme bénéficiaire. Bon, c'était ça le sujet de la discussion. Mais par rapport aux financeurs et à l'action publique, j'ai envie de dire que c'est un peu la même chose. C'est est-ce que comme citoyen, on prend pleinement conscience qu'avec nos collectifs, on est capable de dire oui ou non ? On n'est pas dans la soumission à l'argent public, on n'est pas dans la soumission à la puissance publique et qu'on travaille avec elle, avec des mains à la même hauteur. Quoi. On n'est pas à mendier et après à se soumettre. Non, on co-construit ensemble. Et de la même façon qu'on co-construit avec chacun des membres du tiers-lieu, avec d'autres acteurs du territoire, ben, est-ce qu'on est capable de co-construire avec la collectivité, avec les collectivités ? C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile aussi parce que parfois on a des sensibilités politiques très différentes qui font que le débat est biaisé pour d'autres raisons. Mais c'est une nécessité et il me semble que la coopérative tiers-lieu, même si elle est très très proche de la région Nouvelle-Aquitaine, parce que la région Aquitaine a beaucoup financé, beaucoup, il me semble qu'on est dans une relation de confiance et on essaye de développer tout un tas d'activités et on s'est mis dans une logique, on est une société coopérative précisément pour pouvoir développer une activité économique qui nous permette d'être autonome. Mmh. C'est-à-dire que si demain la région Nouvelle-Aquitaine arrêtait totalement son soutien au tiers-lieu, l'objectif, c'est que chacun des tiers-lieux auxquels on a participé, au développement desquels on a participé, et notre coopérative puisse vivre en dehors de ça.
En capacité quand même de pouvoir continuer leur
C'est activité. Ça la perspective. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça arrive du jour au lendemain, mais l'idée c'est ça, c'est de pouvoir à un moment donné, c'est la culture autogestionnaire, c'est de dire, à un moment donné, et surtout notamment quand on a des activités, je pense, dans le domaine du social, quand on est un espace de vie sociale, on produit, on offre un certain nombre de services qui seront jamais rentables. Je veux dire, offrir à manger à des gens qui n'ont pas à manger, ça ne sera jamais rentable, parce qu'ils ne peuvent pas payer. Quoi. Donc, bien sûr que dans un certain nombre de missions sociales, on a besoin de l'aide et de l'action, de la solidarité qui passe à travers l'argent que nous donne la collectivité.
Je posais la question, j'avais relevé un de tes propos là. dans un article consacré au tiers-lieu là pour le journal corrézien La Montagne où justement t'insistais là-dessus parce que c'est quand même une question qui revient assez souvent où tu disais, je cite, il y a besoin d'aller vers l'État pour s'officialiser et prendre de l'importance. Donc là c'est ce que bon ça c'est peut-être une autre dimension là vraiment aussi au niveau de la portée des projets, au niveau de la reconnaissance publique des projets. Malgré tout, nous devons rester vigilants à ne pas nous institutionnaliser pour rester ces espaces de liberté et d'accueil. Ce sera l'un des enjeux de demain. Donc là, on en revient plutôt, c'est vrai, à l'action citoyenne, éventuellement à certains citoyens qui pourraient être freinés par la grandeur de l'institution, par aussi tout ce monde des mots, ces nouveaux mots, tous ces jargons, coworking, tiers-lieu et tout ça qui pourraient être un peu freinés par cette dimension presque institutionnelle. Il faut naviguer entre ces deux dimensions-là.
Nous, vraiment, on essaye, et on n'y arrive pas tout le temps, mais d'avoir un discours qui soit le moins jargonnant possible. On essaye, le mot tiers-lieu, vous savez, moi, je te le dis vous, parce qu'il y a toi qui est autour de la table, et puis il y a Coco qui est derrière la truc. À Saint-Julien-en-Born, comme ailleurs, on ne parle jamais de tiers-lieu. L'espace de travail partagé qu'on a ouvert, on l'appelle jamais un espace de coworking. Et on s'en fout, en fait. Mais on n'a pas besoin de revendiquer la notion de tiers-lieu. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de dire que que l'État, et pas seulement l'État, les collectivités doivent doivent entendre que les acteurs associatifs au sens large, tiers-lieu officiel ou pas officiel, tiers-lieu reconnu comme tel ou pas reconnu comme tel, il n'y a rien d'officiel dans tiers-lieu, mais je veux dire, qui s'affiche comme tiers-lieu ou pas tiers-lieu, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on pense ou pas que c'est la loi Le Chapelier, c'est pendant la Révolution, il y a juste l'individu et l'État, et il ne doit rien avoir entre les deux, où on pense que les acteurs associatifs, les corps intermédiaires, les syndicats, les partis, les associations sont essentiels comme contre-pouvoir face à la puissance publique et comme moyen de donner du pouvoir d'agir aux citoyens. Et c'est ça, quand je parle d'officialiser, c'est officialiser cet apport essentiel des collectifs, quels qu'ils soient, mais de ces collectifs d'humains, pour dire il n'y a pas que l'individu, il n'y a pas une dualité entre l'individu et un État, par ailleurs, qu'on voudrait faire potentiellement disparaître pour certains. Mais c'est sortir de ça et de dire affirmer, avec tous les autres acteurs de l'ESS d'ailleurs, affirmer la force des corps intermédiaires et en l'occurrence, puisqu'il s'agit des tiers-lieux, des corps intermédiaires de proximité, c'est-à-dire des corps intermédiaires autogérés qui n'attendent pas leur réponse de Paris, qui ne prennent pas leurs ordres d'ailleurs, mais qui font et qui décident démocratiquement par eux-mêmes. Et c'est essentiel dans la démocratie qu'on ait ces corps intermédiaires. Moi, je crois, après peut-être que je me trompe, mais qu'on grandit par un corps intermédiaire. On arrive sur Terre, on est un tout petit de rien du tout, et on a la famille, ou autre chose que la famille, elle peut être d'adoption, elle peut être reconstituée, déconstituée, l'école, peu importe, on passe par des corps intermédiaires qui nous donnent notre pouvoir d'agir et qui nous permettent d'aller vers l'autonomisation. Exducere, conduire hors d'eux. L'éducation, c'est cette expérience collective qui nous fait grandir, qui nous émancipe, quoi. On a besoin de ces corps intermédiaires. On peut pas être seul face au monde. On voit bien sur la question écologique, seul, on peut pas sauver la planète, ça a pas de sens. Bien sûr, on peut éteindre son robinet, d'accord, ok. Évidemment, et il faut le faire. Mais je veux dire, on a besoin de comprendre que ce sont des communs et qu'on réagit à des questions communes en commun, quoi. Et c'est ça, quand je dis officialiser, c'est que l'État entende ses collectifs, ses corps intermédiaires. Quand, et c'est, globalement, il y avait un président il n'y a pas longtemps qui n'était plus. Moi, je trouve que c'est très dommage. Et la culture des tiers-lieux, elle s'inscrit un peu dans une culture de la deuxième gauche, qui est la culture des corps intermédiaires. Bien sûr, il faut de l'État, bien sûr, il faut des services publics. Les tiers-lieux ne sont pas là pour remplacer les services publics, certainement pas. Ils sont là pour apporter autre chose qu'est la vie collective, en dehors de la vie de la collectivité.
Ok. Et donc, qui dit commun dit. Tu parlais aussi d'éducation, de transmission. Bah voilà, ça passe aussi par des temps d'échange, de rencontres. Et donc, c'est notamment ce que vous proposez jeudi prochain, jeudi 5 décembre. Il n'y a pas de lien avec la journée de grève contre la réforme des retraites, j'imagine.
Alors, on a un programme de petit ramdam qui est fixé à l'année. On en a un à peu près par trimestre. Celui-là a été fixé. La date a été fixée depuis longtemps. Comme on est un réseau régional, on fait venir des gens de la Creuse, de Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et du Pays Basque. Vous voyez l'écart. Et donc, du coup, les dates, on les prend longtemps à l'avance. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'il y a des gens qui travaillent pour les services de l'État et qui nous envoyaient un mail hyper sympa pour nous dire qu'ils seraient là, qu'ils seraient en grève, mais qu'ils seraient là malgré tout pour discuter avec nous, même s'ils sont grévistes. Et voilà. Et je respecte tout à fait leur position de gréviste et je les remercie du coup d'autant plus d'être venus, de venir nous rejoindre. Et donc du coup, cette journée-là, c'est de discuter des réseaux locaux de tiers-lieux parce que donc la région est immense. Il y a tout un tas de questions qui sont des questions qui peuvent se traiter à l'échelle régionale. Il y a tout un tas de mutualisations qui sont possibles à l'échelle régionale. Mais au fond, et notre vision, c'est de dire plus on est près des territoires, plus on est à l'échelle du bassin de vie, plus on est à l'échelle du bassin d'emploi, plus on a de chances de trouver avec les gens, par eux-mêmes, les solutions aux problèmes qui sont les leurs. Et je veux dire, on ne peut pas, nous, en tant que réseau régional, comprendre toutes les problématiques partout, quoi. Et c'est sûr que non. Et on a une vie de coopérative, une vie très démocratique, mais on n'est pas, on a une échelle qui n'est pas forcément la bonne pour tous les sujets. Et donc, par exemple, il y a un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est comment on participe à l'individuation, pas l'individualisation, l'individuation des gens qui sont dans les tiers-lieux, des personnes qui sont dans les tiers-lieux. Donc comment ils s'entraident dans chaque tiers-lieu entre eux, dans leur recherche de travail, dans le développement de leurs activités, dans leur développement personnel, dans la résolution de tout un tas de problématiques sociales, etc. Comment ils s'entraident entre eux. Et à l'échelle d'un bassin de vie ou d'emploi, on peut trouver plus de solutions que juste à l'échelle d'un tiers-lieu. À l'échelle de Saint-Julien-en-Born, la question professionnelle, c'est trop petit. Il n'y a pas assez d'emplois. Alors que peut-être que s'il y a 5-6 tiers-lieux qui travaillent entre eux, tiens, j'ai une offre d'emploi qui pourrait correspondre à la personne qui est en recherche d'emploi qui est chez toi. Tiens, on pourrait répondre à un marché public ou à un marché privé en commun. Et peut-être qu'en prenant les compétences des uns et des autres, on pourrait gagner ce marché et se renforcer financièrement. Tiens, il y a plusieurs cafés associatifs. On se rend compte qu'on vend tous de l'alcool. On se rend compte qu'on a tous des gens en face de nous qui ont des problèmes d'addiction. Peut-être qu'on pourrait payer les services d'un addictologue en commun pour permettre à ces personnes qui sont en situation d'addiction d'être aidées, parce qu'un tiers-lieu tout seul n'aura pas forcément les moyens de financer ça. Donc comment, à une échelle très locale de réseau et de bassin d'emploi, c'est pas forcément l'échelle départementale ou quoi, à l'échelle de bassin d'emploi, une échelle cohérente territorialement parlant, on peut favoriser ces mutualisations, non pas au service des structures, ce que fait déjà très bien dans le domaine de l'ESS le réseau Ploux, c'est-à-dire comment on aide les structures de l'ESS à se renforcer. Là, il ne s'agit pas de ça, c'est un autre sujet, c'est comment on aide les individus, comment on aide les utilisateurs des tiers-lieux à se renforcer et à s'individuer, au sens à se développer personnellement dans tous les champs de leur vie, quoi. Et donc, c'est pas tout à fait le même sujet, et donc c'est complémentaire. Et c'est ça le sujet de la thématique du 5 décembre.
Donc une journée qui sera découpée en deux temps, principalement, entre des retours d'expérience la matinée, avec des projets, des tiers-lieux qui présenteront leurs projets, qui ça permettra aussi de donner des idées éventuellement à ceux qui sont soit en construction, soit en développement de ces tiers-lieux. et un temps l'après-midi là qu'on plutôt des ateliers l'après-midi.
Ouais.
Donc j'imagine recréer des susciter des échanges, éventuellement transmettre des bonnes pratiques.
Ouais, et puis essayer de dans une logique de co-construction, c'est-à-dire que par exemple il y a un des ateliers qu'on a appelé on partage plus que des mètres carrés. Et donc c'est de se dire quelqu'un qui vient qui est télétravailleur, donc quelqu'un qui travaille à distance, OK, c'est super, il vient, bon, il utilise un bureau. Et ben qu'est-ce qu'on lui propose pour que ça soit pas juste un espace de travail partagé au sens de l'espace de coworking, de business, mais qu'est-ce qu'on lui propose à cette personne pour aller du télétravail pur à petit à petit, en fait, je découvre la vie collective, je découvre la coopération, je découvre qu'en fait, ce tiers-lieu, c'est un lieu de vie et que moi-même, je peux être médiateur et que si je suis télétravailleur et très bien inséré, par exemple, dans mon entreprise, peut-être que je peux aider à accompagner une ou deux personnes dans une recherche d'emploi, c'est un exemple, parmi d'autres. Donc voilà, se mettre à plusieurs autour d'une table dans ces ateliers pour réfléchir à ça et essayer de trouver des solutions communes sur ce genre de sujet. Donc il y a 4 grands ateliers et effectivement le matin c'est des tables rondes. Je tiens à dire que c'est important qu'on aura la chance entre guillemets d'avoir la présence de plusieurs responsables de collectivités qui vont venir expliquer les différentes politiques publiques en la matière, enfin en matière de tiers-lieux. Donc c'est l'occasion d'avoir de l'info pour tous les porteurs de projets des Landes et d'ailleurs qui pourraient être intéressés. Et par ailleurs, c'est essentiel de comprendre... En tout cas, c'est vraiment la posture de la coopérative tiers-lieux, de dire que les tiers-lieux sont... D'abord, c'est pas une étiquette, c'est pas figé, on s'en fout que ça s'appelle tiers-lieux ou pas tiers-lieux. Le sujet, c'est ce qu'on produit, c'est l'impact qu'on a. Et donc, du coup, tous ceux qui veulent participer à faire en sorte que ces lieux déjà existants ou ces lieux en création, encore une fois, qui s'appellent tiers-lieux ou pas tiers-lieux, aient un vrai impact social fort dans nos territoires, et en l'occurrence, nos territoires landais, voilà, ils sont les bienvenus, quoi. Il n'y a pas besoin d'être un tiers-lieu pour venir, de se sentir tiers-lieu, d'adhérer à la culture tiers-lieux. On voit bien,
donc là même en tant que porteur de projet individuel simplement curieux, c'est ouvert à tout le monde.
Ouais. Ouais. Et en plus, quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur, c'est toujours bien parce qu'ils lèvent la main et nous disent on comprend rien à votre verbiage, à vos acronymes, à vos machins, et ça nous aide. Et l'altérité, elle est essentielle, quoi. Qu'on soit pas... Le but, c'est pas de rajouter les tiers-lieux comme un nouveau truc à la mode après avoir mis tant de choses les unes après les autres, quoi. C'est de se dire bon, à un moment donné. Voilà, à l'échelle de nos villages, à l'échelle de nos territoires, qu'est-ce qu'on fait ensemble, quoi.
Alors, le petit Ramdam des tiers-lieux, c'est donc jeudi 5 décembre de 9h30 à 17h au tiers-lieu Lacouo, qui se trouve domaine du Pignada, Pontonx sur Adour, et c'est bien sûr gratuit. Par contre, c'est sur inscription quand même.
Alors, c'est totalement gratuit, évidemment, c'est sur inscription, et notamment si vous voulez avoir à manger, il y aura un super repas fait avec des produits au moins peut-être pas landais, mais s'il y en a, ça vient plus loin, c'est au moins Lot-et-Garonne au Pays Basque. On va dire, c'est moins de 250 km. Non, il y a un repas et c'est 12 € ou 13 €, je crois, le repas complet, etc. Et donc, il y a une inscription juste pour le repas, quoi.
Bah, merci à toi.
Merci beaucoup.
Upshot Web Radio, votre radio du pays Tarusat.